14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
La conclusion est catégorique. C'est bien une seule et même arme qui a tué trois fois à Béziers et trois fois encore quelques jours plus tard dans le Var. Joseph Réco devient donc plus que jamais le suspect numéro un et il devra répondre de six meurtres devant la justice.
Bonjour, c'est l'un des plus anciens détenus de France, Joseph Thomas Réco, alias Tommy Réco, 87 ans, est aussi l'un des meurtriers les plus terrifiants de l'histoire. Toute une vie sous l'emprise du crime, pas moins de 7 victimes abattues de sang-froid, hommes et femmes, ainsi qu'une petite fille de 12 ans. Avec Réco, la justice va aussi découvrir l'histoire d'une famille de pêcheurs corses, victimes d'une étrange malédiction, un clan hanté par le mauvais sort, les superstitions et les croyances mystiques. Au total, Réco a passé aujourd'hui 58 ans de sa vie en prison. Il vient une nouvelle fois de demander sa libération et cette fois, il pourrait sortir. Éventualité inimaginable pour certains proches de victimes qui, malgré les années, on va le voir, n'ont rien oublié. Tommy Réco, criminel sans remords, un homme qui se dit innocent comme l'enfant qui vient de naître, va-t-il quitter sa prison? Pourquoi, des années après, son cas continue-t-il d'enflammer les imaginations? Question que nous poserons aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, Tommy Réco, le tueur aux yeux bleus. Fin 1979, début 1980, sa silhouette va apparaître derrière une série de meurtres qui se ressemblent. Ce 22 décembre 1979, à trois jours seulement de Noël, l'hypermarché Mammouth à Béziers ne désemplit pas. La foule des grands jours, une recette record en perspective. Vers 13h30, personne n'a entendu les trois coups de feu successifs dans une petite pièce fermée par un double sas, le local de la comptabilité. Trois femmes, trois employés gisent face contre terre dans cette espèce de salle des coffres. René Chamaillou, 29 ans, Josette Alcaraz, 27 ans, Sylvette Morel, 27 ans. Toutes ont été tuées à bout portant alors qu'elles étaient allongées par terre. Une balle près de l'oreille gauche pour René et Sylvette, une dans la nuque pour Josette. L'arme, un calibre 9 mm, est un revolver 38 spécial ou 357 Magnum, sans doute un Smith & Wesson. Le tueur a emporté près de 640 000 francs des billets en train d'être comptés. Les policiers s'interrogent. Pourquoi avoir donné la mort à trois jeunes femmes qui n'ont opposé aucune résistance? Il est probable que l'une d'elles au moins connaissait le meurtrier. Un homme à qui on a ouvert la porte sans se méfier. Un carton de vêtements est retrouvé dans la salle. Peut-être était-il destiné à être remis à une des caissières? Était-ce un stratagème pour accéder à ce local protégé? La PJ soupçonne un membre du personnel, interroge aussi les proches des victimes, mais aucune de ces pistes n'est concluante. Près d'un mois plus tard, 18 janvier 1980, avenue du Coteau Fleuri, lotissement La Californie à Carqueiranne, dans le Var. Peu après 20h, les gendarmes du Pradé sont alertés de la découverte de trois corps dans une villa. La tuerie vient de se produire. Les victimes sont Gilles Le Goff, 45 ans, propriétaire de la maison, abattu de deux balles dans son atelier de bricolage au sous-sol. Sa fille Sandrine, 12 ans, ainsi que Jacques Coutrix, 53 ans, un voisin. Ces deux corps repose près de la porte d'entrée. Trois victimes tuées de sang-froid. À bout portant, des tirs dans la tête ou dans la nuque. La petite Sandrine, touchée au crâne côté gauche, est morte lors de son arrivée à l'hôpital. Mais avant d'être abattue, la petite fille a téléphoné vers 19h30, affolée, au bureau de sa mère. Elle est tombée sur la directrice. Elle a dit qu'elle entendait une dispute et prononcé cette phrase « Quelqu'un veut faire du mal à mon papa, c'est le cousin de René ». La directrice a alors appelé les voisins, les Coutrix. Jacques Coutrix s'est rendu sur place et a été tué. Des coups de feu qui n'ont fait aucun bruit, pas de témoins. Pour le moment, le lien n'est pas établi avec l'hypermarché, mais les quatre balles de type semi-chemisé utilisées à Carqueiranne sont les mêmes qu'à Béziers. L'arme, ici, est également un revolver 38 spécial ou 357 Magnum. Les enquêteurs se concentrent sur les derniers mots de la petite Sandrine. Le cousin de René est tout de suite identifié. Il ne peut s'agir, après déduction et vérification, que du dénommé Joseph Tommy Recco, 45 ans, un homme déjà connu de la justice. Son casier comporte une condamnation pour meurtre, celui d'un garde maritime, le 28 octobre 1960, à Propriano. Joseph Casabianca était son parrain. Recco l'avait abattu à la chevrotine, puis lui avait écrasé la tête avec une pierre. Il avait reconnu, puis nié les faits. Condamné à la perpétuité, il a fait 17 ans de prison, libéré il y a 3 ans pour bonne conduite, avec interdiction de retourner en Corse, sa terre natale. Recco vit à Marseille, une chambre de bonne au numéro 1 de la rue Papetti. Il est chauffeur-livreur chez Sporasub, une société de matériel de plongée. Le 19 janvier, lendemain de la tuerie de Carqueiran, il est placé en garde à vue. Il nie le massacre, puis après 36 heures, il avoue. Il avait un différend. Avec Gilles Le Goff, il l'a tué. Quand il a vu débouler le voisin et la petite fille, il a paniqué. Il déclare « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Ce serait mentir de vous dire que c'était pour empêcher qu'il y ait des témoins. J'étais dans un état second. » Et on va voir que cet état second va réserver bien des surprises aux enquêteurs. Ce n'est que le tout début de cette enquête qui va nous mener jusqu'en Corse. Pour l'instant, on revient à ces deux scènes de crime, et notamment cette scène, cette toute première scène, celle du super, de l'hypermarché de Béziers. Trois meurtres d'une froideur qu'on peut qualifier d'absolue. Bonjour Guy Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes l'époux de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers, l'une des caissières qu'on a alors retrouvée dans cette fameuse salle des coffres ou cette salle de comptabilité, comme on voudra. Comment est-ce que vous apprenez, Guy Morel, les circonstances du décès brutal de votre épouse ?
Ah ben écoutez, tout simplement, le samedi 22 décembre, et à 18h, j'ai des amis intimes qui sont venus vers moi en me disant « Guy, il faut que tu viennes avec nous, ta femme veut te parler ». Mmh. J'ai trouvé ça bizarre. Et quand je suis arrivé à Béziers, à hauteur du magasin Mahmoud Béziers, une personne m'a dit « Allez à l'hôpital, c'est tout ». Et de suite, Monsieur Morel, venez, on va vous calmer. Mais j'ai dit « Mais j'ai pas besoin de calmant, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé ». Et disons que ma femme est allée porter sa recette, elle s'est trouvée nez à nez avec Tommy Recco. Mmh. Et bien sûr, elle a pris une balle dans la tête, comme avaient pris Mademoiselle Chamaillou et Mademoiselle Alcaraz. J'ai pu revoir ma femme que le 24 décembre, mmh, à la morgue, et j'ai pu constater mon épouse qui était, disons, dans un cercueil, avec la tête bandée, les yeux au bord noir, les gencives pleines de sang, elle a dû tomber où il l'a frappé. Donc le jour de Noël, 25 décembre, j'étais chez moi avec ma fille, le cercueil et ma femme malheureusement. Et je l'ai enterré le lendemain, le 26 décembre.
Maître Linda Piperi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Bastia et vous représentez les familles de victimes dans cette affaire. On le voit, des années après, la mémoire des familles de victimes, elle est intacte, cette mémoire.
Ah oui, oui, c'est terrible pour eux. Ils ne vivent, alors vous avez entendu Monsieur Morel, hein. Monsieur Morel, véritablement, en fait, a vu sa vie s'arrêter ce 22 décembre 1979, et il voue sa vie réellement à ce que la mémoire des victimes soit honorée, à ce que la douleur des familles soit respectée, et évidemment à ce que l'ordre public ne soit pas troublé par la remise en liberté de Tommy Recco.
Bien sûr, et on va y revenir à cette peut-être possible remise en liberté, on va en parler au fil de cette émission. On a en ligne également Maître Alain Lotte, bonjour Maître.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah ben merci à vous d'être présent et au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Marseille et vous êtes l'avocat historique, on dira comme ça entre guillemets, de Tommy Recco. On est là au tout début, il a déjà une lourde condamnation, Tommy Recco. Mais c'est un homme qui paraît parfaitement inséré, réinséré dans la société depuis sa sortie de prison. On dit du bien de lui partout.
Oui, effectivement, vous rappeliez qu'après avoir purgé 17 ans d'emprisonnement, il avait apparemment retrouvé une vie normale, il vivait à Marseille, il trouve un emploi. Il est manifestement dans une réinsertion, il est sympathique, jovial, envie de vivre, et c'est ce travail de livreur chez Sporasub qui va l'amener à se rendre au supermarché Mammouth Béziers.
Ah, c'est ça. Et donc, à partir de là, il va devenir le suspect numéro un, hein, automatiquement.
Mais vous rappeliez les conditions dans lesquelles ce drame horrible s'est déroulé. Moi, je veux saluer très fraternellement Monsieur Morel, hein, que j'ai eu l'occasion de côtoyer tout au long de ces années. La police, à l'époque, fait chou blanc, on enquête, on ne trouve pas. Et finalement, c'est l'affaire de Carqueiran qui va permettre d'identifier Joseph Thomas Rico, le cousin de René, surnommé également Tommy Tomate. Et c'est grâce au coup de téléphone de la gamine à sa maman que l'interpellation va pouvoir avoir lieu.
Voilà, c'est effectivement les pièces du puzzle se mettent en place. Encore une question, mais cette fois avec Fabrice Laurent, journaliste à Corse Matin. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être dans l'heure du crime. On va évidemment revenir avec vous sur cette affaire. Mais juste un mot, Fabrice. Là, il n'y a pas grand-chose finalement contre Tommy Rico. L'arme est introuvable. Il y a un petit peu que sa mauvaise réputation, si je puis dire, qui le crochette à ce moment-là.
Ah, sa mauvaise réputation, bon, quand même, oui, des antécédents judiciaires très lourds, mais quand même des... je dirais des aveux, même s'il y a eu des rétractations.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Donc, c'est quand même...
C'est vrai.
Ça ne vient pas du néant, quoi.
Tout à fait.
Et
on va y revenir avec vous, Fabrice Laurent, sur ces aveux et ces dénégations. Tommy Rico ne va pas rester longtemps dans la peau de l'accusé idéal. Il va effectivement revenir sur ses déclarations, quitte à nier les évidences. Au total, Béziers et Carqueiran, c'est 6 meurtres qu'il aurait commis. Le 23 janvier 1980, Tommy Rico revient sur ses aveux pour le triple meurtre de Carqueiran. Il affirme être innocent à 100%, expression qu'il ne va cesser d'employer et avoir parlé sous la contrainte. Il accuse les gendarmes de l'avoir frappé et de lui avoir fait subir des violences sexuelles avec un manche à balai. Les expertises médicales ne détectent strictement rien. Il a bien un tympan percé, blessure peut-être causée par une gifle ou par la pratique intensive de la pêche sous-marine. Rico se calfeutre dans le silence, il nie les faits, mais les enquêteurs accumulent les indices. La boue relevée sous les bottes du suspect est la même que celle du lotissement de Carqueiran. Le 4 mars, il découvre un cagibi utilisé par Rico dans l'immeuble où il vit, à Marseille. Un trousseau de clés de la villa des Le Goff y est découvert. Découverte contestée par l'intéressé, il accuse les enquêteurs d'avoir déposé eux-mêmes les clés. Un co-détenu indique enfin que le Corse lui a avoué avoir tué les 3 personnes dont la petite fille Rico lui aurait encore raconté qu'il était avec 2 complices derrière le carnage de l'hypermarché de Béziers. Les enquêteurs font aisément le rapprochement entre Tommy Rico et l'exécution des 3 caissières. Même mode opératoire dans la trajectoire des tirs, des victimes touchées à la tête, généralement côté gauche. N'a-t-il pas dit à un gendarme en garde à vue « Quand je veux tuer quelqu'un, je tire dans la tête. Quand je veux le faire souffrir, c'est dans les genoux. » Indice capital, 4 experts judiciaires sont formels. Les 7 projectiles meurtriers à Carqueiran et à Béziers sont identiques, ils proviennent de la même arme. Il y a encore ce témoin, M. Maffre, qui s'est manifesté tardivement, mais affirme avoir reconnu Tommy Rico dans l'hypermarché. Le témoin se souvient de cet homme qui traînait au rayon alcool. Un détail l'avait marqué, les yeux bleus profonds de l'individu. Les investigations établissent que Rico connaissait les lieux. 6 mois avant le braquage, il avait livré une combinaison de plongée à la caissière en chef. Il aurait donc prétexté la remise d'un nouveau colis pour se faire ouvrir la porte. Le suspect nie en bloc les accusations. Lors de la reconstitution organisée à Béziers par le juge, il décide de ne pas sortir du fourgon de gendarmerie. Il refuse de franchir la porte de l'hypermarché. Le juge toulonnais Jacques Nunez l'entend alors dans le fourgon, mais Rico ne dit rien. Les avocats de Rico, et notamment 2 ténors du barreau, maître Paul Lombard et Frédéric Monneret, dénoncent une instruction à charge. Selon eux, Tommy Rico est le coupable idéal, seulement victime de son lourd passé criminel. La défense conteste les conclusions des experts balistiques. Une même arme, certes, mais pas forcément un même tireur, répètent les avocats. Lors d'une confrontation avec le témoin de l'hypermarché, Rico dément avoir mis les pieds à Béziers. l'alibi qu'il a présenté. Il était à Marseille ce jour-là, son alibi s'est pourtant effondré. À la sortie du palais de justice et alors que la foule le conspue et demande sa mort, Tommy Recco hurle qu'il est innocent. Innocent comme Jésus-Christ. Le public veut alors le lyncher et commence à tabasser son avocat, Maître Lombard, qui avait dit qu'il croyait totalement à l'innocence de son client. Et Tommy Recco va continuer, bien sûr, à faire le spectacle. Pour le public, il est devenu le diable. C'est un provocateur insupportable pour les familles de victimes. Guy Morel, vous étiez sur place ce jour-là devant le palais de justice et vous avez fait, on le sait, le coup de poing. On vous voit d'ailleurs sur les images. Je voudrais qu'on parle pas que de ça, mais que vous nous parliez de la reconstitution. Comment vous avez vécu cette reconstitution qui est un moment important dans l'histoire de cette attaque du supermarché? Marché.
Le jour de la reconstitution, là c'est pareil, alors là je vous le dis, je m'en cache pas, j'étais armé, non. Et j'attendais, puisque j'aurais voulu, je dis bien, j'aurais voulu qu'il sorte du fourgon cellulaire. Il n'est pas sorti, donc il était encadré de 5 ou 6 policiers, toujours pareil, en civil, et j'entends encore Recco qui a fait comme ça, Morel c'est pas moi. Mais ne sachant pas qui il était, puisque je ne savais pas, je lui ai fait signe de la main qu'il sorte du fourgon pour voir à qui j'avais affaire. Et peut-être pour moi, c'est une chance qu'il n'ait pas sorti.
Alors, il n'est pas sorti et c'est peut-être, oui, une chance pour vous et une chance pour lui aussi, parce qu'il aurait peut-être pris un coup de chevrotine. Maître Alain Lotte, avocat de Tommy Recco, votre client, on peut dire que dès le début... Il attire la foudre ou bien il cherche la foudre ?
Je pense qu'effectivement, à partir du moment où il est placé devant les charges que vous rappeliez tout à l'heure, il va s'installer dans une posture d'innocence, avec ces phrases que vous rappeliez, « Innocent comme le Christ, je suis victime, disait-il, d'abominables machinations. » Machinations dont il ne donnait pas ni les tenants ni les aboutissants. Et j'ai gardé, moi, le souvenir de cette sortie du palais de justice de Béziers, où je me suis retrouvé, alors que Tommy Recco était dans le fourgon, au milieu de cette foule, échappant de peu à une tentative de les violences.
Au lynchage.
Voilà, un lynchage. Et ensuite, Recco ne sortira plus de cette posture. Aussi bien chez le juge d'instruction de Béziers, je m'en souviens comme si c'était hier, il rentre dans ce palais de justice somptueux, il rentre dans le bureau du juge alors qu'il s'agit d'une affaire gravissime, la réflexion qui est la sienne en regardant les lambris, « Oh, monsieur le juge, c'est Versailles !» Et le juge d'instruction de lui dire, quand Recco dit « Je suis innocent comme le Christ », le Recco de dire « Mais, monsieur le juge, vous n'allez pas condamner le Christ à nouveau. » Donc
incroyable.
Il s'est inscrit dans cette posture en se laissant pousser les cheveux. Ça renvoie à ce qu'on évoquera tout à l'heure, les racines corses.
Bien sûr.
Et tout le mysticisme qui entoure le personnage.
Oui. Et on va revenir sur cette histoire effectivement, incroyable d'une famille. On va y revenir dans le chapitre suivant. Fabrice Laurent, journaliste à Corse Matin, vous connaissez parfaitement cette histoire. Le procureur à l'époque va dire « Il s'agit d'une affaire idéale, je le cite, hein, tout est établi. » Et c'est vrai que là, il n'y a pas photo, on peut dire. Tout porte à croire que Recco, il est dans tous les coups, dans ces deux coups.
Ah ben, y a énormément d'éléments à charge. Hein. Vous l'avez rappelé au fur et à mesure de l'évocation, du rappel de ces tragiques affaires. C'est parti d'un coup de théâtre, on va dire, c'est le drame de Carterane qui va permettre de démêler, je dirais,
toutes
ces affaires et de rebondir sur celle...
Parce que là, Fabrice, la balistique, elle est très importante. Hein. Ça fait le lien dans toutes ces affaires.
Je pense qu'elle est essentielle, en effet. Donc, même type d'arme, de calibre, même modus operandi, donc les personnes tuées à bout portant. Et tout ça, ça va contribuer, je dirais, à la faire alimenter l'accusation et donc à coincer Tommy Recco. Quoi. Donc,
bien sûr.
Ça reconnaît peut-être.
Alors, les Recco, on va en parler des Recco et de la malédiction, comme on dit entre guillemets des Recco, mais ils ont pignon sur rue, ce sont des pêcheurs très connus en Corse du Sud. Quel impact a cette histoire à l'époque, quand on apprend qu'un des Recco, qui a déjà été condamné, est à nouveau dans cette histoire? Est-ce qu'on en parle beaucoup sur place ou pas du tout?
Disons à l'époque, oui, mais je pense qu'au-delà de la Corse, c'est l'affaire Tommy Rico et fait partie de ces grandes affaires qui ont effrayé la chronique judiciaire dans les années 70-80, où il y avait, on a vu pour des drames, des meurtres, vraiment des grands moments d'émotion populaire. Vous avez rappelé aussi les gens qui étaient rassemblés devant le palais de justice, qui étaient venus manifester leur colère, leur haine. Donc il y avait tout un contexte, je dirais, à cette époque, au-delà de la Corse, et bien sûr en Corse aussi.
Ouais.
Et
il faut le dire, Fabrice, c'est qu'à l'époque, la peine de mort, elle n'est pas encore abolie. Elle va l'être dans quelques mois, mais à ce moment-là, elle n'est pas abolie. Maître Linda Piperi, vous représentez les familles des victimes. Cette émotion que décrit Fabrice Laurent, elle est on ne peut plus intense à l'époque.
Oui, bien sûr, elle est intense et elle l'est toujours. De toute façon, c'est vrai que c'est encore une histoire qui a traversé le temps et qui, malgré tout, trouve un écho dans la population. Le nom de Rico est un nom qui fait peur, presque.
Un nom qui fait peur. 2 ans d'instruction à l'automne 1982, et puis Tommy Rico est renvoyé pour un procès en cour d'assises, un accusé loin d'être ordinaire, tant son histoire familiale, la saga des Rico, donne le tournis. Avant que Tommy Rico ne comparaisse devant une cour d'assises, sa famille fait corps autour de lui. Grande famille, les Rico, des pêcheurs renommés et redoutés à Propriano, qui ne comptent pas moins de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. Des enfants qui semblent porter avec eux une litanie de malheurs. Un premier garçon mort à la naissance, puis Paul-Louis, tué dans un accident de voiture. Toussaint, le pêcheur de corail, abattu par son beau-frère. Pierre, tué par 2 hommes masqués pour une querelle sentimentale. Francine, une sœur mystérieusement tombée dans un escalier. Antoine, le frère aîné, condamné à la perpétuité pour avoir tenté de violer et tuer 2 jeunes campeuses sur son bateau. Et puis Tony Rico, accusé en 1962 pour le meurtre d'un garde maritime, son parrain Joseph Casabianca, condamné à mort, gracié par le président de la République, peine commuée en perpétuité. Tony, désormais accusé de 6 meurtres, dont une enfant de 12 ans, sa mère, Micheline Rico, alias Mama Rico, défend dans les journaux ce fils qu'elle considère comme un ange. Elle répète qu'il est innocent, il lui a juré lui-même qu'il n'avait rien fait. Tony Rico n'est pas encore jugé, mais sa légende est celle des Rico et des gens en marche. Les journaux racontent ainsi, à propos du clan, une vieille légende, la malédiction de la tortue qui pleure. Le père de famille, Jean Rico, le pêcheur le plus prisé de Propriano, aurait un jour découvert une tortue géante échouée sur une plage. Il lui aurait coupé le cou, la tortue se serait mise à pleurer. La légende ajoute que Jean Rico aurait utilisé la vaste carapace pour en faire un berceau pour ses 11 enfants successifs. Tous aurait été maudit par cette décision. Le fait est que la famille sera décimée par la violence, jusqu'à Tommy Rico, décrit par les experts comme un égocentrique qui montre une indifférence majeure face aux notions de mort, un homme qui peut facilement passer à l'acte. On vous retrouve, Fabrice Laurent, journaliste en Corse Matin, en direct dans l'heure du crime. Alors évidemment, il y a cette incroyable saga dont ça parle la presse, celle du clan Rico. Sans doute une saga peut-être un petit peu exagérée, dirons-nous. Mais le fait est que cette histoire familiale, elle est incroyable et elle va marquer les esprits.
Tout à fait, c'est sûr, vous l'avez dit, on rentre un petit peu dans la légende et ça a contribué à faire de ces affaires et du personnage qui est au cœur de ces affaires quelque chose de hors du commun, quoi. Mais avec des morts violentes, deux frères condamnés à perpétuité, ça pèse.
Ça pèse sur le dossier, ça pèse sur cet homme qui va être bientôt jugé. Et puis il y a aussi Fabrice, cette Mama Rico qui soutient son fils. Elle va devenir omniprésente alors que c'était une femme qui restait en retrait dans cette famille, on la voyait pas.
Tout à fait. Une famille où le patriarche avait un poids très important, une fratrie très très importante de 11 enfants. Mais elle va défendre jusqu'au bout ses enfants et Et c'est sûr qu'on va, entendre parler beaucoup d'elle aussi, autant d'elle que de son fils.
C'est vrai.
Parce qu'elle a une personnalité très forte.
Et très forte, et on va la voir d'ailleurs encore plus forte au procès qui s'annonce. Maître Alain Lotte, avocat de Tommy Recco, la fameuse légende de la tortue. On vous l'a raconté cette histoire en Corse ?
Bien sûr, c'est une légende qui est très répandue en Corse avec, vous savez, cette part d'imagination, de mysticisme.
Oui, bien sûr.
Vous savez que Recco s'est laissé pousser les cheveux et c'est pas gratuit. Pour les Corses, moi étant originaire de Corse également, il y a une cérémonie à Pâques qui s'appelle Ucatenaccio, où vous avez le pénitent qui défile dans les rues de Sartène portant la croix et incarnant les péchés. Et Tommy Recco va s'engouffrer dans ce personnage. Quant à Micheline aussi, c'est un personnage extraordinaire. J'ai gardé le souvenir, moi, de cette maison de pêcheurs sur le port de Propriano. Vous rentrez dans cette maison, c'est un sanctuaire comme à Lourdes, une grotte avec des images pieuses, de la bougie qui se consume toute la journée. C'est vraiment une atmosphère extraordinaire. À Micheline de dire « Les loups sont en liberté, les loups sont en liberté, les agneaux sont en prison. » Elle parle bien évidemment de Tommy Recco.
Elle parle de Tommy Recco et sans doute de ses autres fils qui ont eu maille à partir avec la justice. Encore un mot, maître, un petit mot. Il n'est pas, les experts disent que c'est un homme qui n'est pas sensible aux notions de mort. Aux notions de mort, voilà ce qu'ils disent de Recco.
On a l'impression, si vous voulez, que, aussi bien pour le premier meurtre du garde-pêche que je n'ai pas vécu, je n'étais pas encore avocat, mais pour le reste, c'est un petit peu le réflexe du contrebandier qui est pris sur le fait. Et il y a effectivement cette absence totale de respect de la vie humaine qui l'amène vraisemblablement à entrer dans un nouveau personnage, celui de l'innocent. On entendait tout à l'heure le cliquetis des flashs quand il rentre dans le box de la cour d'assises de Draguignan. J'en ai gardé le souvenir. On aurait dit un taureau qui rentrait dans l'arène. Je suis le bouc émissaire.
Le bouc émissaire, et il va encore le répéter à ce procès qui s'annonce. Car 21 ans après sa première condamnation, Tommy Recco, violent, impulsif, ne va pas échapper à un deuxième procès d'assises. La peine de mort a été abolie. Il a encore désormais la peine maximale, la perpétuité. Ce 6 juin 1983, Tommy Recco se dresse dans le box des accusés de la cour d'assises du Var à Draguignan. Il porte un costume cravate, des cheveux noirs et longs qui lui ont valu en détention le surnom de Geronimo. De ses yeux bleus, il fixe l'assistance et les jurés avec une rare intensité, comme s'il voulait foudroyer tout le monde. Le procès n'a pas encore commencé, il harangue des gens, le public. Il hurle qu'il est un bouc émissaire, il multiplie les allusions à Jésus. « Je suis victime d'une erreur judiciaire. » Je suis vraiment le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les familles des victimes sont à bout et veulent la peau de Recco. L'accusé reste de marbre, se met en scène, nie les crimes, dit de ses victimes potentielles qu'elles méritent d'être canonisées. Des familles éplorées qui essaient tour à tour de le faire avouer, mais Recco ne bronche pas. Il baisse une seule fois les yeux après le témoignage de Madame Coutrix, veuve de Jacques Coutrix, tuée à Carqueran. Le 14 juin, après 8 jours de procès sous grande tension, au cours duquel Tommy Recco n'a reconnu aucun de ses 6 crimes, les jurés se décident pour délibérer. Après seulement 1h45 de huis clos, le verdict tombe. Perpétuité, assortie de 18 ans de peine de sûreté. L'avocat général confiera plus tard que si la peine capitale avait toujours été en vigueur, il l'aurait proposé. Sa mère, Mama Recco, qui n'a cessé de le défendre au fil des audiences, quitte à se faire insulter par le public, quitte la cour d'assises en sachant qu'elle ne reverra plus son fils. Celui-ci est alors écroué à la centrale de Clairvaux, où il effectuera la plus grande partie de sa peine. Maître Alain Lotte, en direct dans l'heure du crime aujourd'hui, avocat au barreau de Marseille et avocat historique de Tommy Recco, vous étiez à ce procès. C'est incroyable, mais il n'y a pas moyen de déverrouiller cet homme, j'ai envie de dire. Il est toujours dans la surenchère.
Il est dans la surenchère, enfermé dans ses certitudes. Le seul moment peut-être d'émotion, ça sera celui au cours duquel il va s'adresser à sa mère, cette Micheline en noir au fond de la salle, en lui disant « Maman, je suis innocent comme tu m'as fait. » J'ai gardé bien sûr le souvenir d'un procès très 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 difficile, douloureux pour les familles, éprouvant pour la défense, une chaussure qui vole au-dessus de la salle pour atterrir dans le, sur le box où se trouvent les avocats, et une condamnation effectivement avec un avocat général qui l'a dit, hein, si la peine de mort avait été en vigueur, je l'aurais réclamé, un cours délibéré, et puis le parcours carcéral de Tommy Recco qui va se poursuivre. Vous savez également, on revient à cette malédiction, que Micheline Recco, la maman, elle est morte en pèlerinage à Lourdes, où elle était partie prier pour ses enfants. Je crois qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Donc, c'est un dossier extraordinairement
tragique et tout à fait étonnant. Fabrice Laurent, journaliste à Corse Matin, finalement, au bout du bout, il n'y a pas d'aveu. Pour les familles de victimes, c'est effarant.
Ben, je pense que c'est ce qu'il y a de plus terrible pour elle, quoi. C'est pour avoir rencontré à plusieurs reprises Monsieur Morel, l'avoir suivi en Corse, où il était venu justement à chaque demande de libération formulée par Tommy Recco et qui espérait, bon, bien sûr, que la justice dise non à cette libération, mais surtout de l'entendre enfin dire ce qui s'était passé, quoi.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'il attend, justice. Tommy Recco, c'est un personnage, vous l'avez dit, hors norme, quoi. Dans une affaire qui est digne d'un roman noir avec ce contexte familial et ces meurtres de sang-froid, quoi.
Affaire qui a marqué, alors vous le disiez, évidemment, le pays tout entier et la Corse en particulier. Aujourd'hui, c'est encore une affaire qui est sensible, dirons-nous, entre guillemets.
Sensible, peut-être pas, mais disons que c'est très suivi parce que justement, ça a été très médiatique. Ça a été une affaire qui a marqué les chroniques judiciaires des années 80 en France, hein, donc le retentissement, je vous disais tout à l'heure, il était national, au même titre que d'autres faits divers qui ont été particulièrement violents, quoi. Mais c'est suivi parce que le nom des Recco, il est très connu. Tommy Recco, il pourrait figurer dans le livre Guinness des records, mais version noire, quoi, hein, version thriller, quoi, avec des condamnations à perpétuité. C'est le nombre de meurtres pour lesquels il a été condamné. Et cette famille, en effet, qui est marquée à jamais. Quoi,
qui est perdue, des familles qui sont perdues, évidemment. Tommy Recco va passer près de 60 ans en prison. Ses demandes de libération systématiquement refusées. Il espère que sa dernière requête sera reçue favorablement par les magistrats. Les parties civiles, elles, ne veulent pas le voir dehors. Le 1er octobre 2021... Tommy Recco a déposé sa 21e demande de remise en liberté. Toutes les tentatives précédentes avaient échoué, y compris un recours en 2019 pour des motifs de santé. Le rapport médical avait conclu que sa condition physique était compatible avec un maintien en détention. Celui qu'on surnomme Geronimo rêve de pouvoir rentrer en Corse et de pouvoir mourir dans son lit à Pietracorba, un petit village du Cap Corse où son épouse habite. Malgré son grand âge et ses ennuis de santé, la justice considère que Recco est toujours dangereux pour la société. Même son fils Paul-Louis Recco avait déclaré au journal Ouest France « S'il sort, il va encore faire des conneries. Il n'a qu'une seule idée en tête, se venger de ceux qui l'ont dénoncé. » Les familles des victimes de leur côté n'ont rien oublié de leurs tragédies respectives. Les années écoulées n'ont pas effacé le souvenir d'un Tommy Recco qui demeure un monstre à leurs yeux. Plus de 40 ans après les tueries de Béziers et de Carqueiranne, l'affaire n'est pas éteinte. Le feu couve toujours autour de Tommy Recco. Et on vous retrouve, Guy Morel, époux de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers. Vous n'avez cessé de le répéter, Guy Morel, toutes ces années. Si Recco sort de prison, je le tue. S'il sort de prison, vous êtes toujours dans ces mêmes dispositions aujourd'hui?
Mais je le dis bien, et je veux que Recco l'entende encore, Monsieur Recco n'aura pas un jour de liberté. À Borgo, ça fait plusieurs fois que j'y vais, je suis descendu, j'étais armé, je vous assure, je n'ai pas peur de Recco. Si Recco, qui que ce soit, lui donne une raison quelconque pour qu'il sorte de Borgo, je peux vous assurer, je serai devant la porte et ça ne sera pas une histoire de parole. Ça sera une histoire sans parole. Moi, je suis un enfant de cœur, j'ai affaire à un tueur. Moi, je suis tout seul, je vis tout seul, comme on dit, et personne ne se préoccupe de ma santé ni mon quotidien. Alors, je peux vous assurer que quoi que qu'il arrive, je peux vous assurer que ça sera peut-être la fin de ma vie pour moi, mais je ne lui laisserai pas le moindre jour de liberté.
Alors c'est très fort ce que vous dites, Guy Morel, évidemment, et vous êtes à nouveau, les chairs sont à vif dans cette histoire et votre mémoire est à vif. Maître Linda Piperi, vous représentez les familles de victimes, même si c'est excessif sûrement ce que dit Guy Morel, on peut le comprendre, il est prêt à aller à l'attendre à la sortie de Borgo. Borgo, c'est la prison en Corse où est incarcéré Tommy Recco.
Ben, vous savez, Monsieur Morel le dit avec suffisamment de constance et de conviction pour que on puisse imaginer qu'il aille jusqu'au bout. Mmh. Maintenant, je ne suis pas certaine réellement qu'un enfant de cœur, comme il se décrit effectivement, puisse devenir ainsi un criminel. Il a demandé un parloir pour voir Tommy Recco. Il veut en fait ce face-à-face.
C'est ça, pouvoir discuter avec lui, c'est ça?
Exactement, pouvoir discuter avec lui, pouvoir comprendre et pouvoir en fait lui extorquer cet aveu en quelque sorte qu'il ne souhaite qu'une chose, c'est entendre l'aveu de sa culpabilité.
Mais ça risque d'être très difficile. On a l'impression que Tommy Recco, c'est une forteresse hein, qui s'est comme ça verrouillée, cadenassée au fil des années. Maître Alain Lotte, vous qui le connaissez parfaitement, vous êtes son avocat. Est-ce qu'il a vraiment l'espoir de pouvoir quitter sa prison, Tommy Recco? Est-ce que c'est possible?
Juridiquement, bien sûr. Mmh. Il a 60 ans de détention. Il est âgé de 87 ans. Il a les pathologies de son âge, même si sa détention n'est pas incompatible, si son état de santé n'est pas incompatible avec la détention. Vous évoquiez l'idée que M. Morel rencontre M. Recco. Vous savez que ça existe dans certains pays hein, où on permet effectivement aux victimes et à quelqu'un qui a été condamné d'essayer de briser un petit peu cette forteresse. Je ne sais pas si ça sera possible. J'entendais M. Morel, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et je sais que les plaies sont toujours béantes. Je le supplie de surtout de ne pas passer à l'acte. Laissons faire la justice. C'est la 21e demande. Vous savez que certains pays en Europe considèrent que au bout de 20 ans ou 30 ans de détention, la peine n'a plus beaucoup de sens. On verra bien ce que la cour, le juge de Bastia décidera. Mais effectivement, alors il dit moi je veux sortir pour mourir dans mon lit. Moi j'ai envie de dire, ben, si cet homme qui passe son temps à lire les écritures saintes, la Bible, voulait se confesser avec M. Morel, ben, peut-être effectivement ça permettrait de refermer les plaies.
De refermer les plaies, oui, effectivement, ça serait la possibilité. Maître Linda Piperi, vous allez vous opposer à la sortie de Tommy Recco?
Bah, en tout cas, je l'ai fait lors de l'audience il y a 15 jours, hein, et j'ai vu en fait un Tommy Recco, le Tommy Recco d'aujourd'hui.
Okay, alors, dites-nous, maître, c'est important, à quoi il ressemble aujourd'hui, Tommy Recco?
Bah, en réalité, vous savez, il n'est pas très éloigné de ce que décrivait mon confrère, de ce qu'était Tommy Recco à cette époque. C'était un monsieur, d'abord, il se déclasse seul, il parle fort, il interrompt le juge, le procureur, il invoque le Seigneur, il invoque le Christ, il se dit toujours victime de ce complot, il se dit bien sûr innocent et il n'a absolument pas pris conscience évidemment de la gravité des faits. C'est un peu ce qui lui est reproché par la justice, hein, cette absence d'évolution, cette absence de prise de conscience des faits, cette absence aussi totale d'empathie envers les victimes. On est totalement face au même personnage.
Il n'a pas changé, Tommy Recco, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui et c'est très important. Merci beaucoup, maître Linda Piperi, maître Alain Lotte, Guy Morel et Fabrice Laurent d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.